Bon, on va poursuivre notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes rendus au chapitre 4, les versets 13 à 16. Ecclésiaste, chapitre 4, versets 13 à 16. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé, qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Alors, j'ai donné aujourd'hui comme titre à notre leçon, à notre étude, « Le pouvoir n'apporte ni bonheur durable, ni satisfaction. » On va regarder à l'intérieur de notre étude trois principales idées. Le pouvoir, c'est variable les exercices. Autrement dit, on va regarder comment le pouvoir s'est exercé, s'exerce et s'exercera dans sa façon de se manifester. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est le pouvoir, ses imprévisibles caprices. Autrement dit, on va se rendre compte que le pouvoir, il y a un aspect très capricieux à l'intérieur de tout cela. Et on va examiner un petit peu plus en détail cette idée-là. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est dans le verset 15 et 16, le pouvoir, ses illusoires attentes. Autrement dit, les gens ont des attentes face au pouvoir. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'illusions par rapport à tout cela. Ce qu'on va faire aussi, de manière à garder à l'esprit l'ensemble du plan que le roi Salomon ou l'Ecclésiaste veut amener, veut nous faire comprendre. Alors, on se rappelle que dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi à qui Dieu avait donné une grande sagesse, la plus grande qu'il a donnée à aucun homme, qui se dit dans les Écritures, il développe un thème qui est le thème principal. Et ce thème-là, c'est « La vie sans Dieu est vaine ». Alors, son propos de « La vie sans Dieu est vaine » a été développé par le fait qu'après avoir tout richement expérimenté dans sa vie terrestre, il a constaté que tout est vanité. Et on veut dire par vanité quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas, quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui est futile, quelque chose qui est vain, quelque chose qui est fragile et qui est dérisoire si tout cela est vécu sans Dieu. Alors ce fait-là le conduit à constater le côté imprévisible, incompréhensible et incontrôlable de la vie. Puis en suivant cette voie, il n'a tiré aucun avantage ni aucun profit. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre 1, versets 1 à 3. Alors, il a poursuivi ses réflexions et il a observé que dans la nature et dans tout ce qu'il voyait autour de lui, il y avait un cycle monotone, à la fois dans la nature et dans l'existence humaine. Ça, c'est dans les versets 4 à 11 du chapitre 1. Ensuite, Salomon a continué sa démonstration de la vanité de toute chose dans la vie. Dans les versets 12 à 18 du chapitre 1, il a démontré la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse, mais la sagesse humaine. Ensuite, dans le chapitre 2, il a continué sa démonstration de la vanité de toute chose dans la vie. Il a montré que rechercher sa satisfaction dans l'expérience, en général, et là on peut voir quelques aspects de l'expérience. Donc, il peut y avoir de l'expérience dans les plaisirs de la vie, les plaisirs en général, et la boisson, les travaux de construction, l'agriculture, l'horticulture, les possessions étendues. On sait qu'il a goûté énormément de richesses. Les richesses et aussi la musique. Ça, on voit ça dans les versets 1 à 11 du chapitre 2. Dans les versets 12 à 26 du chapitre 2, il nous a montré la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse et le travail. Et à partir du chapitre 3, du chapitre 3, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 7, il va développer l'idée de la vanité de la recherche de satisfaction dans le monde présent. Autrement dit, les versets 1 à 15, il va nous montrer la fatalité pour l'incroyant et le plan souverain pour le croyant. Autrement dit, la fatalité, c'est les choses vont arriver et le plan souverain, le croyant, lui, fait partie d'un plan souverain. L'incroyant aussi, mais pas de la même façon. Un plan souverain pour le croyant. Et à partir du chapitre 3, verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 6, il va nous montrer que la méchanceté et l'oppression s'étalent absolument partout. Donc, on l'a vu ça la semaine dernière, un peu, dans le dernier sermon. Et on avait vu aussi, dans les versets 7 à 12, chapitre 4, que dans de nombreuses situations, deux personnes réussissent mieux qu'un seul. Alors, dans notre dernière étude, on avait examiné les raisons de l'incapacité de l'homme d'être le concepteur et le bâtisseur de son propre bonheur, soit l'oppression, la jalousie et l'avarice qu'on avait vu dans notre dernière leçon. Alors, ce qu'on peut dire du roi Salomon, qu'il était un homme très expérimenté, il va maintenant poser son regard sur un domaine qu'il connaît très bien, puisqu'il était un roi, donc le pouvoir. On va regarder dans les versets 13 et 14, le pouvoir, ses variables exercices. Autrement dit, comment le pouvoir s'est exercé, s'exerce et s'exercera. Alors, il nous montre des caractéristiques. Mieux vaut, dans le verset 13, un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. On peut dire, je pense, que même une observation superficielle des Saintes Écritures et de la politique internationale nous fait remarquer que le pouvoir n'est pas toujours exercé de la même manière et que les conséquences sont radicalement différentes pour le peuple selon la crainte de Dieu qu'ont les dirigeants. Bien sûr, si tu es un dirigeant qui a une grande crainte de Dieu, ça va se refléter dans le bien-être du peuple et l'inverse aussi. Moins le dirigeant a de la crainte de Dieu, plus les conséquences vont être douloureuses pour la population. Alors, on reprend un petit peu qu'on pourrait dire, on disait que c'est des variables d'exercice. Donc, l'exercice du pouvoir s'exerce de façon variée. On va regarder les versets 13a et 14. Il dit, « Mieux vaut un enfant pauvre et sage, et 14, c'est dit, car il peut sortir de prison pour renier et même être né pauvre dans son royaume. » Alors, la Bible nous donne plusieurs exemples de dirigeants ou de rois qui ont exercé le pouvoir avec sagesse. On peut en prendre deux, on va les examiner rapidement, deux ou trois. Alors, on prend l'exemple de Joseph. Le Seigneur a providentiellement dirigé la vie de Joseph pour lui permettre d'atteindre un haut niveau de pouvoir politique en Égypte. Il était le second en importance après Pharaon. Il a utilisé son pouvoir avec sagesse, bonté et intelligence. On va aller lire, par exemple, deux passages du livre de la Genèse. Genèse 41, versets 39 à 41. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Alors on voit ici un individu, Joseph était de tribu, était un juif, et qui avait été vendu par ses frères, et qui, à cause des circonstances providentielles, Dieu avait permis qu'il connaisse la prison et qu'il finisse par en sortir par toute une série de circonstances que le Seigneur contrôlait. Alors on voit ici un personnage. Quand on dit « vaut mieux un enfant pauvre et sage », un exemple de Joseph. Et on va aller voir le deuxième passage de Genèse, chapitre 50, versets 18 à 21. Alors ici, on est à la fin de la vie de Joseph, et ses frères, bien entendu, ils craignaient que Joseph, étant en situation de pouvoir, puisse se venger, vouloir se venger d'eux. Alors ça dit dans le verset 18 du chapitre 50, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, « Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alors on voit qu'il était même dans une situation où il aurait pu profiter de son pouvoir pour se venger de ses frères. Dieu avait déjà travaillé dans son cœur, avait déjà formé pour qu'il soit un bon dirigeant, qu'il puisse même pardonner à ses frères et même pourvoir à leurs besoins et à leur bien-être, dans le but qu'il savait que c'était Dieu qui avait permis toutes ces circonstances-là, dans le but de sauver le peuple d'Israël. On a aussi un autre exemple qu'on peut prendre quand on dit « Mieux vaut un enfant pauvre et sage, car il peut sortir de prison. » On sait que c'est le cas de Joseph. Il est allé en prison, Dieu l'a fait sortir de prison pour régner, et même être né pauvre dans son royaume. On sait que, par exemple, David est un exemple d'une personne qui avec un passé très humble et que Dieu a élevé à de très hauts niveaux. Alors, quand on regarde l'exemple de David, on pourrait bien sûr citer l'exemple de David qui a connu une promotion sociale et politique fulgurante. On sait qu'il était un berger, et de berger, il l'a fait passer à roi. Et il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. On voit la main de Dieu là-dedans. Passant de berger à roi, durant toute sa vie, il prit à cœur le bien-être du peuple. Il exerça la royauté dans la crainte de Dieu et avec sagesse. Alors, bien sûr, on pourrait prendre l'exemple de Joseph et de David et de développer énormément plus l'idée qui dit au début du verset « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé. » On pourra prendre d'autres exemples aussi. On pourra prendre l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament et aussi de Mardochée dans le livre d'Esther. Alors, ces deux personnages-là, Mardochée va nous montrer qu'il est possible d'exercer le pouvoir dans la crainte de Dieu et pour le bonheur du peuple. Alors, on voit ici que Dieu fait en sorte que c'est possible pour un être humain qui a été élevé d'une condition très humble à une condition très élevée, mais qu'il le fasse correctement, dans la crainte de Dieu. Et qu'il le fasse aussi avec, dans l'esprit, le bonheur du peuple. Alors, on lit par exemple dans Esther, au chapitre 10, verset 3, ça dit « Car le juif Mardochée était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. » Alors, on voit ici que un roi, comme ça dit, Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé. On a des exemples ici dans les Saintes Écritures, et je suis sûr qu'à l'intérieur de toute l'histoire des hommes, il y a aussi certains rois qui ont administré le pouvoir qui leur a été confié par Dieu de façon peut-être pas... C'est sûr que ceux qui l'ont fait de façon la plus sage, c'est ceux qui avaient une crainte de Dieu, bien entendu. Et alors, on a la variable de l'exercice du pouvoir avec la sagesse qu'on vient de voir. Maintenant, il y a une autre variable, c'est celle de l'exercice du pouvoir sans la sagesse. Parce que dans le verset 13b, la dernière partie du verset 13, ça dit « Vaut mieux ça, un enfant qui est pauvre et sage, qu'un roi qui est vieux et insensé, qui ne sait plus écouter les avis. » Autrement dit, Dieu peut permettre que quelqu'un accède au pouvoir, mais avec le temps, il se corrompt et il ne pense, sa crainte de Dieu diminue. Et en plus, il est rendu tellement orgueilleux et imbu de lui-même que les avis, même des personnes sages qui l'entourent, il n'en tient plus compte. Alors, on peut se rappeler un passage de l'Ancien Testament pour nous parler de la promesse que Dieu avait faite à Salomon, pour nous donner un exemple que la sagesse, Dieu avait donné à Salomon, la sagesse, mais on sait qu'à cause de son péché avec les femmes et de sa désobéissance à ce que Dieu commandait, et là, non seulement son fils a vu son royaume se déchirer, mais on voit que c'est des choses que Dieu lui avait. Dieu a fait une promesse à Salomon. On va aller voir dans 1 roi, au chapitre 9, les versets 4 à 7, pour se rappeler la promesse que Dieu avait faite à Salomon. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi les peuples. » Alors on voit qu'il y avait une promesse que Dieu disait, si tu obéis, voici ce qui va arriver, puis si tu désobéis, voici ce qui va arriver. Alors Salomon, on sait par le reste de l'histoire qu'on lit dans les Saintes Écritures, Salomon il a failli et il a pratiqué l'idolâtrie et la polygamie malgré les avertissements du Seigneur et aussi de la loi de Dieu. Par exemple, les avertissements du Seigneur, on a dans 1 roi chapitre 11 versets 1 et 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Voyez-vous, on voit que Satan s'est servi de son amour des femmes, et Dieu avait déjà averti que si vous joignez, vous mariez, vous avez des relations avec des femmes étrangères de toutes ces nations-là, qui sont des nations idolâtres, vous allez vous faire entraîner dans l'idolâtrie. On avait aussi, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 7, versets 3 et verset 4, Dieu avait averti de ne pas faire ces choses. Dans le verset Deutéronome 7, verset 3 à 4, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Alors, ce n'est pas qu'il ne savait pas, il savait, mais quelque part, son péché a eu victoire sur lui. Et on voit que ce que Dieu avait promis, il avait dit qu'il donnerait succession et qu'il y aurait un pouvoir, il y aurait de la paix, de la sécurité et bien d'autres bénédictions. Mais on voit aussi dans le chapitre 11 de 1 roi, les versets 9 à 12, que l'Éternel, la promesse qu'il avait faite, soit d'obéissance ou soit de désobéissance, aurait des conséquences. Et ici, on voit dans Romains, 1 roi, chapitre 11, versets 9 à 12. « L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton frère. » Alors, on le sait que l'exercice du pouvoir par un roi comporte de très graves dangers, soit celui de la grande accessibilité du péché. Bien sûr, il y a des richesses, il y a toutes les personnes qui sont à son service, et donc le péché pour lui est très accessible. Et tout ça, à force de pratiquer le péché, ça le conduit vers une pratique téméraire du péché, en se croyant au-dessus de la loi des hommes et de Dieu, et se terminant, bien entendu, en catastrophe, à cause de son orgueil et de sa pseudo-invincibilité. Alors, on sait que ça, c'est vraiment une caractéristique de tous les temps. Les êtres humains qui ont du pouvoir ont accès facile au péché. Ensuite, il vient un temps qu'à force de s'enraciner dans le péché, de s'embourber dans le péché, il se pense au-dessus de la loi des hommes, autrement dit, soit j'ai le pouvoir, il n'y a personne qui peut m'atteindre, et aussi au-dessus même de la loi de Dieu. Et on sait que toutes ces choses-là, si on observe à la fois dans les Écritures et à la fois dans la vie des rois de la terre, que ça finit toujours en catastrophe. Et leur pseudo-invincibilité finit par démontrer leur fausseté. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est le pouvoir, ces imprévisibles caprices, versets 15 et 16a. Alors on lit les versets 15. « J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. » Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler ici? C'est le côté succession des rois. Alors, quand il arrive un roi qui est sur la fin de son règne, c'est parce qu'il arrive à la fin de son règne, comme David, quand il était malade et sur le bord de mourir, et il y avait comme une... En québécois, on dit ça du grenouillage. Il y avait des gens qui commençaient à regarder, à vouloir exercer le pouvoir à sa place. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est que il dit qu'il a vu tous les vivants qui marchent sur le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Autrement dit, dès qu'un roi, soit que la personne veut faire un coup d'État et tuer le roi pour prendre sa place, ou soit qu'au moment de la succession, les gens s'imaginent que la personne qui va succéder au roi va être meilleure que le roi. Ça dépend, bien entendu, ça dépend de quelle façon le roi qui précède avait exercé son pouvoir. Puis ça dit aussi dans le verset 16 que tous ceux-là, ça dit que ceux qui avaient eu comme des rêves sur la manière dont le roi successeur se comporterait, ça disait que ceux-ci viendront et ne se réjouiront pas à son sujet. Bien souvent, c'est suivi. Ah, il pensait qu'il était mieux, il le regarde aller, puis en fin de compte, bien souvent, non seulement il n'est pas mieux, mais souvent il est pire. Alors, on va regarder un petit peu les caprices des espoirs de la succession. Quand il dit « J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. « Un roi n'est pas aussitôt descendu du trône que le peuple s'enflamme d'enthousiasme pour son successeur. Dans l'espoir de vivre des améliorations dans la conduite du gouvernement et de leur bien-être individuel et collectif. Qu'il nous suffise de se rappeler des agissements du peuple lorsqu'il attendait la mort du roi David et de l'établissement de son successeur. Alors, Adonijah, qui était son fils, voulait usurper le trône déjà qui est promis, même si il savait qu'il était promis à Salomon par Dieu. Il a voulu prendre la place de Salomon et usurper le trône. Alors, c'était Adonijah. Alors, on voit un petit peu ce passage-là, ce fait-là, dans 1 Roi, chapitre 1, verset 1, et ensuite les versets 5 à 11. Alors, le premier verset nous rappelle que le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Alors, on voit qu'il était sur la fin de son règne. Et là, de versets 5 à 11, ça nous raconte comment son fils Adonijah. Alors, ça dit Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait de sa vie fait un reproche en disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tsiruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zéolette qui est à côté de En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Alors on voit que les caprices de la succession, c'est que parfois même des hommes sachant ce que Dieu avait déterminé qui sera roi après David, se sont quand même acharnés à vouloir aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, il y a le caprice des espoirs de la succession. Et après ça, il y a le caprice des désillusions de la succession dans le verset 16a. Ça dit, il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Bien sûr, l'histoire du fils de Salomon, Roboam, peut servir ici d'exemple. Le peuple s'attendait et demandait un allègement de leurs conditions de service auprès de Roboam. Alors on sait, en lisant l'histoire, dans les Écritures, que leur espoir a vite connu la désillusion. On va lire ces passages-là pour nous montrer que, dans le fond, toutes ces histoires-là, les successions, et quand arrive parfois un successeur, on voit que ce que les Écritures disent, que ils ne se réjouiront pas à son sujet, c'est ce qu'on va regarder. 1 Roi, chapitre 11, verset 43. Puis, Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Alors, on voit ici que bon, le roi meurt, son fils prend la place. Et là, ce que les Écritures nous disent, c'est que les gens ont des grandes attentes face au successeur. Ils s'imaginent que le successeur va leur apporter des améliorations. Alors, on va regarder le chapitre 12 de 1 Roi, le verset 3 et les versets 8 à 15. D'abord, le verset 3. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » On lit à partir du verset 8 de quelle façon le jeune homme s'est comporté. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. » Ton père a rendu notre joug pesant. Et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé de joug pesant. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des foies. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Alors on voit ici la succession. Les gens sont allés voir le roi qui succédait au et ils lui ont demandé d'alléger le service, parce que le service était rendu pesant, parce qu'il parle de fouet, il parle de scorpion. Le fouet, bien entendu, on sait c'est quoi, mais un scorpion, c'est des choses que tu ajoutes à l'extrémité d'un fouet qui rend le fouettage, on pourrait dire, encore plus cruel, encore plus difficile. Alors on voit que ces imprévisibles caprices, on voit que les espoirs de la succession, il y a beaucoup d'illusions des fois qui s'attachent à tout ça. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est le pouvoir, ces illusoires attentes. Autrement dit, après que Salomon a eu examiné tous les aspects de la royauté, comme on a vu, et il conclut. En disant la phrase suivante, et qui c'est pas une phrase qui est encourageante, autrement dit, en termes d'examen et d'appréciation de ce qu'est le pouvoir, car il dit « car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent ». Le pouvoir, qu'il soit vécu avec ou sans la sagesse, est toujours fragile, toujours instable, toujours rempli d'incertitudes et capricieux. L'exercer avec la crainte de Dieu est absolument nécessaire. On va regarder deux versets qui nous parlent de cela. Proverbe chapitre 27, verset 24. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Autrement dit, la richesse peut s'évanouir et disparaître. Et aussi, le pouvoir, parce qu'il dit, ni une couronne éternellement. Autrement dit, le Seigneur peut te l'enlever à tout moment, pour plusieurs raisons. Ensuite, on a le psaume 113, versets 7 et 8. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors, on voit ici que, dans le fond, l'Éternel peut prendre quelqu'un de pauvre et l'élever au plus haut degré du pouvoir. Et c'est très intéressant de voir le côté souverain du Seigneur de Dieu dans toutes les dans ces décisions-là. Alors, bien entendu, les attentes doivent tenir compte de notre état de pécheur. Nous avons un besoin constant de se rappeler que le peuple est capricieux et instable. Les foules se lassent rapidement de tout et sont toujours séduites par le nouveau. Les accolades des populations sont toujours éphémères. Le pouvoir, même lorsqu'il est exercé avec sagesse, n'est pas suffisant pour conserver l'allégeance permanente du peuple. Le pouvoir n'apporte jamais un bonheur ni une satisfaction durable. C'est pour ça qu'il termine sa phrase en disant que tout cela, c'est poursuite du vent. Et alors, le pouvoir, il apporte... Et bien souvent, il faut se rappeler que dans ce bon monde, le héros d'aujourd'hui perd rapidement de son attrait. On a eu à regarder un petit peu le système des ce qu'on appelle en anglais, en américain, le star system. Autrement dit, on voit des personnes qui, avec le temps et avec l'aide des médias, finissent par avoir quasiment un aura de sainteté et les gens les suivent quasiment religieusement. Arrive un moment dans leur carrière où tout s'écroule comme un château de cartes. Alors on voit que tout cela, c'est bien fragile. Alors, les Saintes Écritures nous indiquent la voie pour trouver le bonheur et la satisfaction. Alors, dans le psaume 62, versets 9 à 11, nous lisons « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Alors, bien sûr, ce court passage-là, quelques versets, nous donne beaucoup d'indications sur ce que c'est un pouvoir bien exercé, un pouvoir mal exercé, et les conséquences qui en découlent, et toutes les illusions, et tous les mirages que ces choses-là peuvent faire dans la vie des gens qui sont séduits par le pouvoir. Alors, trois applications. Que devons-nous comprendre, que devons-nous changer dans nos vies suite à l'étude de ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on vient de regarder. Le pouvoir, premièrement, s'il est exercé dans la crainte du Seigneur et dans la volonté du bien-être du peuple, sera consolidé à condition de ne pas se transformer en idole, ni en le vivant comme un rival avec Dieu lui-même. Autrement dit, si tu l'exerces comme il faut, il y a des fortes chances que Dieu consolide ton pouvoir. Mais la séduction possible là-dedans, c'est que dès que tu es au pouvoir, tu peux te faire une idée trop haute de toi-même et tu peux faire du pouvoir un rival avec Dieu. Ça, c'est la première application. La deuxième, Salomon nous prouve que la poursuite du pouvoir s'avère souvent vaine, pleine de déceptions et pleine d'illusions. Troisième application, ne plaçons jamais notre confiance et notre sécurité dans les mains des pouvoirs humains. Confions-nous en Jésus-Christ, en Dieu le Père, en Dieu le Saint-Esprit. Nous ne serons jamais déçus. Gloire à Dieu pour son amour, sa miséricorde et sa grâce. Amen.